Principe actif.
Commercial radio under rats.
Voilà, c'est désagréable à l'oreille.
C'est parti ! Essai de Christian Dominici, c'est un génie !
Essai ! Ouais ! Pas vrai, c'est pas vrai ! Deux fois, ça, c'est pas vrai ! Chut !
Les massues, il faut pacifier, elles pèsent pas moins de 500 grammes chacune. Et but !
Et troisième
et but !
But
d'Emmanuel Petit, qui marque à la dernière minute !
Oh là là, oh là là, la chute de Mélanqui, chute de Mélanqui, juste devant Armstrong, Armstrong qui est parti dans le terrain.
Ça y est, Shepard est parti ! L'Express, le TGV est parti, Shepard ! 9,58, record du monde !
Pédalage et défonçage, sans les mamelles du Tour de France, alors il se défonce car la ligne est encore loin.
Eh ben bonjour, il est l'heure du Café des Sports en ce mardi 16 novembre. On va retrouver bonjour Gonzalo.
Bonjour.
Bonjour Damienski.
Bonjour et présent.
Bonjour Bernardo.
Salut Brandon.
Nous attendons nos acolytes supplémentaires qui arriveront au fur et à mesure de l'émission. Nous l'espérons en tout cas. Pas d'absent noté. On va retrouver évidemment les résultats locaux, l'abécédaire du professeur, du rugby, du football, de la NBA, des billets d'humeur, des coups de cœur, des coups de gueule, le tout en musique pendant une heure et demie. Et de suite, le premier morceau.
Un morceau qui donne la patate, les Strokes.
Last night
Et ben voilà, c'était Bernardo.
Les Strokes.
Allez, bah on va entamer la rubrique sport local. Personnellement, j'ai été voir du volleyball pour la première fois de la saison et j'ai été déçu. Je ne reviendrai pas. Parce que, oh là là, qu'est-ce que c'était triste. On était côte-côte, ça va qu'il y avait de la bière. Et peu d'échanges, peu de niaques sur le terrain. On y reviendra très certainement avec Gonzalo.
Ouais. Moi, je me souviens que quand je jouais au volley au lycée, on me disait, faut dire j'ai. On l'entend pas, ça.
Ouais, parce que tu ouvres pas les oreilles. T'as l'habitude que des cordes de basse aiguisées et des batteries tonitruantes. Voilà. Et puis à côté de ça, bah, j'ai participé à un splendide match de basket. J'ai pris 20 points.
Super. Comment va ton postérieur?
Mon postérieur va bien. Je crois que j'ai des années de glisse. Je suis content d'avoir rejoué à Jean Moulin 15 ans après, quand même. Ça fait une petite larme.
Quand est-ce que cette équipe avait gagné?
La semaine dernière. Une fois tous les 6 mois, 6 semaines.
Oh la vache, la décadence.
Et toi, Gonzalo, le sport, ça donne quoi, Évreux, cette semaine?
Tu vas dire que je suis jamais content. Bah, c'est pas vrai, parce que le foot a perdu. Alors, on peut pas dire que je sois malheureux comme ça. Hein. Quand je dis le foot, vous avez tous compris de qui je parle. Hein. Le FC 27 est Passy. Moi, les footeux, ils m'épateront toujours. Hein. J'ai beau dire un paquet de vacheries ici au micro, mais je crois que je pourrais pas faire plus fort que nos deux amis du moment, là, quand même. Bouchelagam et Fouda. Ah, ils se font un beau duel à l'ancienne. Je sais pas si vous avez lu chacun.
Acte 1, acte 2, acte 3.
Pas vu, pas pris.
Ah, d'accord. Je vois que la The Voice ne se prononce pas. Un peu plus loin dans la vallée, j'ai lu avec intérêt la presse déchaînée. Qu'est-ce que j'ai dit encore?
Rien. Continue.
Après 17 journées de championnat national, qui en compte 40, j'ai vu que monsieur Sofiane Bézou demande à être libéré, alors, de son contrat, certes amateur, mais pour rejoindre Fréjus, qui évolue au même niveau de compétition. Alors moi, je veux bien entendre tous les arguments, mais vraiment tous. Hein. Mais j'ai un truc, moi, c'est que quand on s'engage pour une saison, comme dirait la Palice, bah, c'est pour toute la saison. Hein. Et puis moi, je trouve que laisser les copains au milieu du guet, pour ma part...
Quand ça pue.
C'est incompréhensible. Alors moi, je suis un vieux con. Hein. La quarantaine, tout ça. On pourra me raconter tout ce qu'on veut sur le sport moderne, la société mondialisée, le chacun pour soi. Mais quand on donne sa parole, elle engage l'homme. Et quand je dis homme, c'est avec un H majuscule.
Un H avec un majuscule, moi je vois autre chose. C'est...
Majuscule. Ce jugement prévaut également pour les femmes. Alors, là où j'étais pas content, c'est là que je vais y venir, c'est que elles aussi, elles se sont montrées décevantes ce week-end. Brandon, tu vois qui je veux parler?
Oui, bah, je crois qu'on a largement entamé le débat.
Et bah, voilà, la défaite, moi je pense qu'on est tous d'accord ici, hein, on aime le sport, si on est là pour causer, alors qu'on ne mange pas, je te le signale, Brandon, quand même, nous ne mangeons pas. Bon, la défaite a fait partie du sport, en volée, il y a que deux alternatives, la victoire ou la défaite, donc c'est 50% tombé sur l'une ou sur l'autre. Hein. Moi, ce qui m'a agacé au Gymnase Canada, c'était le décalage entre l'enthousiasme du public et l'apathie d'une majorité des Bruyciennes. Pas de vidage de tripes, je sais pas si c'est... Non.
D'accord.
Voilà. Et alors que contre Cannes, un grand de France et d'Europe, là, il y avait eu une débauche d'énergie. Bah là, rien. Ça n'a pas été fait. Et après, bon, moi, je suis pas technicien, ça reste du domaine du technique. Mais en tant que public, enfin spectateur, bah ça engendre une déception.
Une frustration. Moi, j'irais jusque là. Après, c'est où quand on est entraîneur et quand on est joueur, c'est plus facile de se hisser à un niveau, de tendre vers l'excellence, CF Cannes, que d'imposer son jeu. Et c'est là où on mesure les bonnes équipes, c'est celles qui sont capables de déposer leur marque de fabrique. Et je crois qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de marque de fabrique. Il y a une équipe qui joue par réaction et pas par action.
Action, réaction. C'est bon pour le billet d'humeur. On enchaîne sur les résultats.
Allô, ici Captain Viral, ici Rémi Valin, je vous reçois 8 sur 8.
Eh ouais, l'ALM a encore été gagné à Charleville, 57-62. Alors pas si mal pour le 10e budget. Hein. Alors, par contre, moi je voudrais faire un petit bémol. Attention à la gueule de bois, parce que depuis plusieurs rencontres, l'ALM ne joue pas très bien, mais ça gagne. C'est aussi le signe des saisons qui peuvent rigoler. Encore faut-il réenclencher un moment ou l'autre le booster. Voilà. Vous avez remarqué, attendez. Cap Canavero, le booster, le lien.
Le lien. Juste pour compléter par rapport à ça, j'ai lu dans le coin-coin d'aujourd'hui, le sieur Rémi Valin d'ailleurs, qui disait la première place, c'est bien, mais c'est à la fin de l'année qu'on regardera qui est premier. première perspective vers peut-être des objectifs, dévoiler des objectifs un peu plus importants. Toujours sur la rubrique basket, je tiens à signaler le retour à la compétition de Benoît Toffin.
Qui ça ?
Benoît Toffin, l'intérieur, qui est venu ici. Et je crois que c'est la première fois qu'il prend autant de rebonds depuis 2 ans pour un retour de blessure. 9 rebonds en 20 minutes de jeu, c'est plutôt pas mal.
Un bon match.
Donc,
de reprise.
ALM Basket, premier en classement, ça fait quand même du bien en le disant.
Surtout que si on attendait les médias télévisuels locaux,
la rillette, c'est pour Brandon.
D'accord.
On a échangé aujourd'hui.
Non, c'est vrai que France 3 n'en parle toujours pas, pas d'image.
Il y a Rouen.
Donc, volé, on a parlé, les Bruxelles ont été battus à domicile par Saint-Raphaël, une équipe simplement plus volontaire et appliquée. En fait, le VB n'a pas voulu de la victoire. 7e journée de championnat, 7e place au classement et déjà 2 contre-performances. Attention. Football !
Oh là 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 !
Passy ! Alors, j'ai lu les 2 journaux locaux et ils l'affirment. Une défaite en beauté contre Bastia. Bon, un joli jeu de mots. Pour une nouvelle défaite, les Passéens occupent la 14e place. Évreux ? Également une défaite contre Chartres. Attention, un grand de France et d'Europe. Chartres.
Ouais, promu, malheureusement. Chartres. Ouais, promu, qui était promu. Normalement, ça aurait dû amener une victoire, selon les dires de spectateurs et de supporters présents. Car il y en avait en déplacement. Contre le promu, défaite pas normale, puisque le FC menait 1-0. Et il y a eu plusieurs occasions de tuer le match. Et en fait, ils ont perdu 2-1.
Pourtant, le rugby avait montré l'exemple la semaine d'avant, en allant gagner là-bas.
Et donc, ça engendre une peu glorieuse 6e place qui va continuer d'alimenter le feuilleton Bouche la Game Fouda, ce qui va être, moi je trouve ça assez drôle. Hand, le SMV accueilli au Grévarin, Créteil le leader dirigé par Zovko qui a longtemps coaché le SMV. D'ailleurs, c'était assez intéressant, il y avait un papier de Catherine Lenoir là-dessus qui expliquait que certains anciens étaient venus saluer justement l'ex-coach Verdonnet et que d'autres passaient devant un peu dédaigneusement. C'est un peu curieux. Enfin bon. En tout cas, sur le terrain, le SMV est tombé les armes à la main, 25-28, 4e au classement pour un promu. C'est du solide.
C'est plutôt très bien.
Et donc, généralement, là, t'enchaînes, tu dis « Ouais, mais attends, Saint-Sébastien ?»
Eh ben, je vais le faire.
Voilà.
Ils ont été gagnés chez le leader, Falaise, 23-26.
Il fallait le faire.
Et Falaise le faire. Donc, c'est plutôt un bon résultat pour Saint-Sébastien Sport, qui jouera ce week-end à la maison contre ce même Saint-Marcel Vernon, l'équipe réserve.
Et par contre, j'ai pas réussi à voir les résultats. Enfin, ça veut dire que j'ai pas eu trop le temps. Qu'ont fait les jeunes de l'OPO ? Il y avait des sélections cadettes et juniors.
Non, il y avait les cadets qui jouaient qui recevaient à Saint-André-de-l'Eure les
Alsace-Lorraine.
Non, c'était en club là. Pas les moins de 17, moins de 18, pas les moins de 18, moins de 19, mais les moins de 17 du club de l'OPE qu'on gagnait contre des Parisiens qui sont arrivés en week-end à la campagne chez des bouseux et qui passaient nous mettre gagné, et au final ils ont pris 30 grains, donc merci, le bonjour des campagnards du 2-7, comme on se plaît à le dire depuis de nombreuses années avec l'OPE sur les terres parisiennes. Six derniers résultats, c'était plus un résultat athlétisme avec plutôt un résultat d'ensemble. Le cross du Carrington, institution de l'athlétisme heuroise, qui a fait 998 athlètes classés, ce qui les situe à un bon niveau de participation au niveau des crosses dans le quart nord-ouest.
Ils sont honnêtes en même temps, parce qu'ils auraient pu dire 1000, ce qui est superbe comme chiffre et tout. Tu te dis tout de suite, t'arrives à la barre des 1000. Mais non, ils sont restés très objectifs, très sérieux, 998.
Voilà, à fait, un truc comme ça. Donc, classé. On enchaîne en musique, Gonzalo, à vous les manettes.
You and spoke not a word. I never forget you, two stories that I've heard. For you, unknown brother, my baby's mother's pain. 'Cause your soul is in heaven, but your memory remains. Unknown, unknown brother, I meet you someday.
Eh ben, le Café des Sports, Principe Actif, 102.4 FM ou principeactif.net partout dans le monde.
Attends,
c'était... Et c'était quoi ?
C'était les Black Keys, quand même.
Voilà, qui étaient au Festival Rock cette année très à Évreux. Eh ben, on va enchaîner avec vous, Sieur Bernardo, avec votre greffe linguale qui a fonctionné. Et nous allons saluer Monsieur Raoul de Pont-Aven qui fait son entrée dans
bravo,
le Café des Sports.
Bravo.
Bonjour.
Bravo.
Bien les seules félicitations que j'aurais méritées de la semaine.
Le Café des Sports est toujours ému de vous saluer, de vous remercier. Allez, Bernardo, à vous.
Bon, je vais essayer de pas y aller à la tronçonneuse. Lettre H. On va commencer par Bernard Hinault, l'ancien cycliste français né le 14 novembre 54. Donc il vient tout juste d'avoir 56 ans. Il est toujours vivant d'ailleurs, il avait pas du trop chargé lui. C'est le troisième coureur à avoir remporté 5 fois le Tour de France. Après Anquetil et Merckx. Le troisième coureur, pardon, pas français. Ouais, en train de me rendre compte que... Désolé.
On suit.
Il les a remportés en 78, 79, 80, 82 et 85. Depuis, ce record a été égalé par Indy Rain et battu par Armstrong.
Notre ami Armstrong. Nous l'aimons tous.
Qui, on ne sait pas si lui, il arrivera jusqu'à 56 ans par contre. Son surnom était le blaireau. Alors en fait, c'est pas du tout une insulte. Ça...
Parce que Armstrong, c'est monocouille. Hein.
C'est pas du tout une insulte, ça a été donné par un coureur breton par rapport à sa combativité. Parce qu'en fait, le blaireau dans la nature ne l'a jamais prise et voilà pourquoi. Donc ça,
il est absolument
pas une insulte.
Il est breton aussi, il n'y a pas un truc.
Il est breton, ouais. Bernard.
Nanar.
Ouais. En 8 participations au Tour de France, il a remporté 28 étapes. Et c'est d'ailleurs le dernier coureur français à l'avoir remporté en 85. À son palmarès, il y a aussi un titre de champion du monde, 3 tours d'Italie, le Giro et 2 Vuelta. Dans les classiques, il a aussi réalisé quelques exploits. Par exemple, en 80 à Liège-Bastogne-Liège, il arrive sous la neige avec 10 minutes d'avance sur le deuxième. En 81, il remporte Paris-Roubaix après plusieurs chutes. Et à l'arrivée, il déclare que on ne m'enlèvera pas de l'idée que cette course est une belle cochonnerie. Ça avait fait assez de bruit parce que voilà, c'était une belle classique. Et...
ce qui est agréable avec ce mec-là, c'est qu'il n'était pas du tout formaté. C'est-à-dire que quand il avait quelque chose à dire, voilà, il le disait franco de port, c'est le cas de le dire.
Oui. Donc en 82, c'est le deuxième.
Oui, oui.
C'est le deuxième Français à avoir réalisé le doublé Giro et le Tour après Anquetil.
Giro, pour les amateurs de pédale, c'est le Tour d'Italie.
Oui. En 83, il est forfait pour le Tour de France parce qu'il est blessé au genou. En 84, il promet à son collègue Greg LeMond de l'aider à gagner, mais il se tire un peu la bourre quand même. Et finalement, il termine second, derrière Fignon. Ensuite, en 85, il fait son dernier doublé Giro Tour, donc le Tour d'Italie, comme Brandon l'a bien précisé. Et en 86, il tente de battre le record détenu par Anquetil et Merckx pour gagner son sixième tour, mais là, il se fait doubler par LeMond. Il a pris sa retraite en 86. Il est sélectionneur de l'équipe de France Pro entre 88 et 93. Là, actuellement, après avoir été éleveur bovin en Bretagne, mais il y a eu un souci avec la crise de la vache folle, il exerce des responsabilités dans la société organisatrice du Tour de France.
D'accord.
Oui.
On en apprend de belles, hein, quand même.
Ah, dis.
Merci, hein, quand même.
Ouais. Bon, alors après le blaireau, on va passer à l'hermine.
Ah, pas mal.
Belle transition.
Ah ouais. Est-ce que c'est à la Bretagne ou pas, peut dire aussi.
Donc, de Nantes. Qui a, alors ce nom d'équipe a une double origine. Alors il y a l'hermine qui est associée à la Bretagne et à Nantes, sur tous les drapeaux bretons, l'espèce de petit dessin là, c'est une hermine. Et c'est également parce que ce club est issu d'un quartier qui s'appelait l'Hermitage. Donc c'est fondé en 1891, mais ça devient l'hermine de Nantes Atlantique que en 1907, du nom de la section gym. Le basket apparaît en 27, mais on parle de la section basket uniquement à partir de 1932. Ils sont en Pro B depuis 95 et ils ont créé l'Hermine Atlantic Pro en 2005 pour se différencier de la partie amateur. Bon, ils fixent des objectifs qu'ils doivent réviser à la baisse assez régulièrement. Bah oui, c'est comme ça. Il n'y a pas trop de trucs dans leur palmarès. L'ALM les a rencontrés le 8 octobre. Chez eux, et c'est l'ALM qui a gagné 63-90. Donc on verra si le 21 janvier Nantes cherche à renouveler, enfin à battre Évreux, quoi.
En tout cas, ils ont aidé Évreux ce week-end, je crois. Ils n'ont pas battu Dijon ?
Tout à fait.
C'est ça. Voilà. Et sinon, bah, c'est de là que vient Ludovic Schell qui officie chez nous cette saison. Et là, actuellement, bah, ils sont 15e de la Pro B. On va partir au Texas du coup maintenant. Houston, qui est la quatrième ville des États-Unis.
Allô, allô, on a un problème.
On l'a déjà fait ? T'avais qu'à arriver à l'heure.
Sale con.
donc la quatrième ville. Je vais commencer par l'équipe d'hockey, les Aeros, dont le logo est un bombardier traversant un palais. Qui a terminé premier de la division ouest de NHL en 2002-2003. Ensuite, il y a les Astros, équipe de baseball, créée en 65, qui s'appelait avant les Colts 45s.
Ouais, les Colts.
Et qui remporte la Ligue nationale en 2005. Alors, ils évoluent au Minute Maid Park.
Oh. Bah, il faut se vendre. Hein.
Et on y vient en France avec la construction du MMA Arena. Hein.
Voilà.
Et le stade, le futur stadium du Mans. Au foot, ça s'appellera le MMA Arena.
Bon, c'est pas choquant, je trouve. Hein, s'ils mettent
avoir les rillettes. Hein,
non, mais s'ils mettent les Fafios.
Bordeaux-Chenel Stadium, la classe.
Non, non.
Moi, ça me choque pas. Hein. Quand si une société privée décide de mettre des Fafios pour construire une enceinte moderne, on en manque tellement en France que...
C'est d'autant moins choquant au Havre, chef du SCM, Sporting Comptoir Moderne, je crois. C'est ça, c'était un club d'entreprise à la base.
Ouais.
Il y a aussi une équipe de soccer qui s'appelle la Houston Dynamo. Avance.
On a le droit de s'appeler comme ça aux États-Unis, Dynamo.
Alors, en fait, ce club a été créé quand le.
Par le KGB. Par la filière KGB.
A été créé lorsque le San Jose Earthquakes a déménagé à Houston en 1836. Et ça s'appelait auparavant le Houston 1836. Mais la communauté hispanique a protesté. Et depuis, ça s'appelle le Houston Dynamo.
Pourquoi ? Parce que 836, c'est quoi ? C'est la date de
1836, Fort Lamour, il y a une date comme ça. Je n'ai pas trouvé exactement, mais voilà.
Bah, je pense que c'est...
C'est Buffalo Bill, non ?
Non, c'est la date du rattachement du Texas à la Fédération américaine.
Ah, peut-être.
Et non, avant, c'était quand même un état mexicain.
Mexicain.
Voilà. Ils sont champions de la Major League en 2006-2007 et vont en quart de finale de la CONCACAF.
Et dis pas trop de mots américains, ça fait monter la fièvre de Damien qui a regardé. Il a un gros thermomètre, là, je sais pas ce qu'il fait avec.
Non, c'est parce qu'en fait, il est impatient. J'y arrive.
J'ai un petit problème quand même, c'est que cette émission commence à ne plus être Café des Sports, mais Café Philo, je trouve, par moment.
Oh, on cogite pas beaucoup non plus.
Donc les Rockets de Houston en basket.
Hakim the Dream. Pardon.
Yes, c'est ça. Olajuwon. Donc les Rockets sont champions de NBA en 94-95 et donc c'est là qu'a évolué The Dream, Hakeem Olajuwon, qui a été élu meilleur contreur de l'histoire, meilleur rebondeur, voilà. Il a marqué le total de 26 511 points en 17 saisons à Houston.
On pourrait rajouter qu'il formait avec Otis Thorpe les Twin Towers de Houston et c'était vraiment dans la raquette impossible à franchir.
2m13.
Ouais. Précédemment, c'était avec Ralph Sampson, 2m20. Mais le pauvre, il s'est blessé au dos.
Et il n'a pas eu une longue carrière, ouais.
Eh bien, voilà, c'est tout.
C'est tout pour
c'est
le
très
moment.
Bien. Bah, c'est un tout très bien.
C'est un tout très bien. On va enchaîner en musique. Quelle est votre sélection avec la lettre H, toujours ?
Eh bien, aujourd'hui, on va aller faire un petit tour d'Hollywood avec les Hollywood Pornstars.
Waste
bien voilà, c'était nos amis belges d'Hollywood Pornstar avec Walking Cash Machine.
Dominguez, record, il fout le passe à 3 balles. Dominguez, il prend le ballon, il se retourne, pied gauche, il tape. On est capable de le presser là. Merde, on se prend pour qui?
Eh bien, moi, je vous le demande, pour qui se prend-on?
J'aurais bien voulu une petite souris, moi, samedi soir.
Ouais, alors.
On va voir si. On se prend pour qui ici? Allez!
On va reparler du rugby et de ce test match contre les Fidji que je n'ai pas vu pour cause de VB, vous l'avez compris tout à l'heure. Voilà, quel enseignement tire-t-on dans les coins-coins jaunes, dans les petits poussins jaunes de la semaine, de ce match gagné, certes, mais disputé dans des conditions pas apocalyptiques, mais pas loin. À savoir du vent et puis beaucoup de pluie, comme c'est souvent le cas en Bretagne, pour revenir à l'Hermine de tout à l'heure, parce que nous sommes de nouveau à Nantes.
Nantes n'est pas en Bretagne.
Oui, ça dépend pour qui. Voilà.
Dans les Pays de Loire.
Voilà. Et donc un match gagné avec une équipe de France au rabais, dirons-nous, avec l'absence de plusieurs cadres, mais une victoire quand même, 34-12. Avec quelques joueurs qui ont marqué des points. Je pense notamment au trio d'ailier et avec l'arrière, parce que c'est des matchs où on est en général beaucoup sollicité. Et puis, bah, à part ça, une grosse mêlée, mais contre une équipe qui joue jamais ensemble, qui a certes du poids, mais qui a aucun fondement en mêlée.
Et ouais. Paraît-il qu'il y a un joueur qui a marqué des points, enfin qui a fait un gros match, et Ouedraogo.
Oui.
Mais sauf qu'il n'est pas retenu pour le match chez lui à Montpellier.
Mais
il a la garantie de jouer le dernier test.
Voilà. Je crois qu'il y a une revue d'effectifs très large par rapport au moment de la saison, à savoir les joueurs ont déjà joué 10 matchs en championnat, une dizaine de matchs. Donc il y a une revue d'effectifs très large qui s'opère.
Certes, mais Ouedraogo.
Oui.
Formé à Montpellier, capitaine de Montpellier, sera dans les tribunes à Montpellier.
Bah, il sera au moins dans les tribunes. Il sera dans les tribunes.
Pour être avec son pote Trinket.
Non, Trinket est lui dans les tribunes pour dans les vrai. Tribunes.
Non, mais Ouedraogo aussi, il sera.
Oui, il n'est pas sur fringues, la composition.
Avec ses fringues perso, quoi.
Voilà, c'est.
Ça sonne, les gars.
Ah, il y a un téléphone qui sonne au Café des Sports, mais nous n'avons pas la ligne. Donc, nous allons laisser. Sonner. Toujours est-il que la France a gagné. Il y avait d'autres tests et je crois que ça c'est plutôt important de regarder les scores des autres matchs. Raoul, est-ce que vous avez vu des résumés d'autres matchs ou vu d'autres matchs?
Là, j'ai vu quelques morceaux de matchs parce que moi aussi je suis allé me faire chier dans un gymnase samedi qui valait pas le détour. Non, je suis pas d'accord avec toi sur l'intérêt de ces tests parce que finalement c'est une activité saisonnière le rugby. Les mecs du sud ils jouent que pendant notre été à nous et ils nous mettent des roustes et nous on joue que pendant notre hiver à nous et on leur met des roustes. Donc c'est un peu la même litanie chaque année. Je vois pas trop l'intérêt de se passionner pour ça.
On est d'accord. Moi j'ai quand même vu des joueurs anglais plutôt surprenants et des nouveaux, notamment le demi de mêlée Youngs.
Et un petit ailier aussi qui est pas mal.
Ashton, c'est un nom qui parle aux amateurs de rugby et qui suivent particulièrement le club de basse.
Je crois que t'allais dire aux fans des Stooges.
Ou de Jad 70 Show.
Ashton, la petite ailier qui a inscrit quand même deux essais et qui est intéressant. Je sais pas de quel club il est à la base, mais Ashton, ça a quand même été.
Northampton, je crois.
Northampton, ok, ouais, d'accord. Après, il y a eu dans les résultats, c'est le Pays de Galles. Qui était plutôt moribond l'hiver dernier pendant le tournoi, qui accroche les Sudaf avec, à signaler, le Victor McField, quand même, record de sélection pour un joueur Sudaf, 102 matchs.
Un match ? Oui, pardon.
Il est en équipe, d'Afrique du Sud depuis 2001.
C'est un match aussi qui va coûter cher aux Gallois, parce qu'il y a pas mal de casses, en fait, hein, côté Gallois. Il y a Shane Williams, il prend 10 semaines.
Ah ouais, quand même. Et ouais. Apparemment, il y a un petit ailier justement de 18 ans qui a inscrit deux essais aussi pour le Pays de Galles. Première sélection, deux essais.
Et aussi pour l'Afrique du Sud, deux cadres de page.
Oui.
Ah, ça, j'ai pas.
Rappelé, je sais plus qui. Ouais.
J'ai pas suivi l'histoire.
Ouais, sur des stimulants.
Dans le paquet, oui.
D'accord. Autre
c'est pas une grande surprise d'ailleurs. Ils ont une grosse tradition là-bas quand même.
Autre résultat qui nous intéresse un peu plus près, l'Argentine. Qui gagne petitement contre l'Italie, 16-22.
Moi, j'ai vu la première demi-heure. J'ai cru que c'était à Nantes, sous la pluie, avec de la boue, etc. Parce qu'aucune des deux équipes n'était capable d'aligner deux passes. Donc, c'était misérable.
Voilà, donc, voilà, c'est l'adversaire de ce samedi soir pour l'équipe de France. On va revenir vite fait sur la compo du groupe France là pour la réception des Argentins. Il y a, comme qui dirait, un air de revanche par rapport à la tournée plus que ratée de l'été. Et là, même s'ils sont pas dans le même hémisphère, c'est la même problématique parce que pour 90% des joueurs argentins, ils jouent en France. Donc, il y a la même état de fatigue, la même fraîcheur physique à ce moment de la saison. Donc, on va suivre cette histoire quand même de près. C'est notre bourreau, les Argentins. On a du mal à jouer contre ce type d'équipe. On va revenir sur la compo après.
Et là encore, il y a eu de la casse. Hein. Sur Italie-Argentine, des deux côtés, beaucoup de blessés. Donc je ne sais pas quelle est l'équipe qu'ils vont aligner, mais il y a des joueurs majeurs qui ont compris après.
Alors pour la France, on aura en première ligne Mas, Servat, Domingo. On aura en deuxième ligne Nalet, Pierre. Troisième ligne Chabal en 8, assisté de Bonner et du Sautoir.
A mis du kilo. Hein.
Ouais, Dark Destroyer. Capitaine, la charnière para Trail qui s'y installe, qui s'installe à l'ouverture pour l'instant. Et Ozel, on a le trio arrière ailier, c'est Payisson, Huguet, A et Andreu. Et au centre, on retrouve Josion associé à Rougerie. Rougerie qui, apparemment, ses performances avec le Stade Clermontois, notamment de la saison passée, ont peut-être tapé dans l'œil à. À l'ami Lièvremont.
Je crois aussi qu'il est dans sa logique là, sur ce match jusqu'au 12, enfin, en faisant exception de l'ailier, mais jusqu'au 12, il a mis vraiment beaucoup de poids. Quoi.
Ah, ça va.
Je pense que ça, c'est pas parti pour cueillir des pâquerettes, ça va jouer frontal.
Sachant qu'en remplaçant, après, on retrouve, question de poids, on retrouve Guirado du Calcon, Thion, Aridor Doki, Yashvili, Estabanez et Porical, qui a fait lui aussi un très bon match.
Porical, oui. Ouais. Bah, c'est une valeur sûre du championnat de France, hein, depuis deux ans. C'est l'un des meilleurs Perpignanais.
Dans son jeu, après, irrégulier à la botte pour l'instant, au plus haut niveau. Irrégulier, mais quand même un botteur quand même prolifique pour
en club. Irrégulier, mais déterminant sur les matchs importants. Donc.
Et je suis un peu d'accord avec Raoul. À mon avis, Huguet, Palisson, ils vont pas voir souvent la gonfle. Hein. Ça va pas beaucoup aller plus loin que le 11, que le 12. Hein.
Ils auront des ballons sur le jeu au pied adverse. Et par contre, après les petites mobilettes, ils font 1m22 les deux. Ils ont des crochets et voilà, et du coup je pense qu'ils auront des espaces à utiliser sur les ballons de récupération principalement.
Oui, mais pas sur nos lancements.
Non.
Voilà, on est d'accord.
C'est une équipe qui.
Encore une équipe de destruction et pas de construction.
Bah malheureusement, je crois que dans le rugby on est de plus en plus confronté à ça.
Non, mais ça fait 10 ans qu'on dit qu'on fait que ça, parce qu'on n'a pas le temps en France, et quand est-ce qu'on va avoir le temps de construire un jeu?
Attends, qui est-ce qui construit du jeu?
Non, mais je pense que c'est deux choses par rapport à ça et à ta question aussi, Brandon. Je pense qu'il y a deux choses. Il est dans une logique de revanche et de combat. Comment sont surnommés les Argentins en rugby? Les pénibles.
Ah, d'accord.
Donc ils viennent pour leur foutre sur la gueule. Voilà. C'est comme ça que l'équipe est construite. Et après, tu dis qui construit du jeu? Alors justement, les gros titres de la presse, c'était que les Anglais avaient joué au ballon.
Un petit peu, ouais.
On verra combien de temps ça va durer.
Mais je crois que c'est cyclique. Je crois que c'est. Ça a toujours été. Il y a des périodes où il faut jouer. Il y a des adversaires contre qui il faut jouer. D'autres contre qui il faut pas jouer. Je crois qu'avec l'utilisation de la vidéo et les joueurs se connaissent par cœur, il faut aussi
oui. Et puis aussi je garde mes couilles au chaud parce que j'ai un contrat à tenir, etc. Il faut que je fasse un résultat. Une petite défaite, c'est moins honteux que d'en prendre 20 parce qu'on a relancé. Donc de toute façon on vient dans du sport étriqué, c'est un peu partout pareil, les formes de jeu elles se simplifient, il y a de moins en moins de prise de risque, il y a de moins en moins de spectacles.
Donc voilà,
bah vrai. C'est vrai,
en partie, et on n'y déroge pas. Je crois qu'on aura un match plutôt qui va être basé sur le combat. Il faut se rappeler que là-bas, on avait été bouffé partout, et qu'à un moment donné, le rugby, je vais pas vous remettre le discours de Gaillard qu'on passe de temps en temps, mais si devant.
Ça commence devant.
Et voilà, bêtement.
Je sais pas qui va jouer en 10 en Argentine, mais il y aura quelque chose vraiment d'intéressant à regarder. C'est l'ami Conte Pomi. Qui ne se satisfait pas du tout de ce qu'il fait à Toulon, où l'équipe joue pas du tout pour lui, et c'est une équipe qui est calquée en fait sur le jeu de Wilkinson, et quand Wilkinson n'est pas là, il n'y a pas de plan B, hein, à Toulon, et c'est quand même un type qui nous avait mis plein la tête l'été dernier avec l'Argentine. Je trouve que ça va être un test vraiment intéressant. parce que avec ma doudou on discutait rugby, on regardait ça, et c'était au spécialiste du rugby la semaine dernière, où il posait la question: est-ce qu'une équipe doit s'adapter au jeu du 9-10, ou alors c'est les 9 et 10 qui doivent s'adapter aux 13 autres? Et dans le cas présent, Toulon a décidé de faire ni l'un ni l'autre, et du coup c'est un peu de la loose hein, ces derniers temps.
Moi je serais quand même d'avis, après c'est ma conception, je crois que le 9 et le 10 conditionnent tellement de choses dans une équipe de rugby qu'on est quand même très dépendant et très au service de ces joueurs-là. Après c'est ma façon de voir. Et
donc a priori Saint-André n'a pas la même que toi.
Oui, non, non, mais
c'est simple, c'est qui domine le rapport de force dans le vestiaire, est-ce que c'est l'entraîneur ou est-ce que c'est les joueurs? Voilà, la réponse elle est là. Si c'est l'entraîneur qui a tous les pouvoirs et qui domine, c'est lui qui va imposer un système de jeu, quels que soient les joueurs. Si les joueurs ont la parole, entre guillemets, l'entraîneur sera beaucoup plus à leur écoute et beaucoup plus ouvert à leurs propositions ou à leur laisser des libertés.
Après, où je pense que quand t'as un mec comme Wilkinson qui est capable de te mettre 30 points au pied par match, de dropper de n'importe où, d'alterner le jeu aussi.
Non, mais je suis bien d'accord avec toi. Sauf que quand il est blessé un mois,
ah oui, non,
qu'est-ce que tu fais pendant un mois?
Ah bah là,
c'est
tu.
Voilà, c'est non, la question.
Ouais, enfin, ça, c'est un peu une question qui n'a pas de sens. Parce que quand t'as Zidane dans une équipe et qu'il est blessé, qu'est-ce que tu fais? Quand t'as. On parlait de Hakim Olajuwon et qu'il est blessé, qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, une équipe, elle est toujours basée. Enfin, une équipe de très haut niveau est quasiment toujours basée sur un joueur majeur, un joueur star. On a parlé du Barça l'année dernière en long, en large et en travers en foot. Barça sans Messi, c'est Barça ou pas ?
Sur des tribunes de sites locaux, de sites internet, on a la même question qui se pose concernant la potentielle blessure d'un Philippe Da Silva à la LM Évreux au basket. Et ça inquiète beaucoup de monde d'imaginer que Philippe soit indisponible plusieurs matchs parce qu'on aurait qui à la main à la LM Évreux. Donc ouais, c'est vrai que c'est à la fois une question et en même temps une. Enfin, c'est pas que
c'est
j'ai pas
une réalité,
c'est une réalité, voilà. Ouais.
Non, mais
tu joues sur tes points forts. Là, et tu réduis tes points faibles. C'est ça la base de l'entraînement.
J'ai mal parlé ou je comprends pas ce que vous dites. Là, il est blessé un mois. Faut faire un mois sans lui.
À Toulon.
À Toulon.
S'en fout, ils ont pas de match.
Non, mais il était blessé pendant un mois. Il a pas joué de mi-octobre à mi-novembre. Il a pas joué. Donc, il fallait bien qu'il s'adapte sans lui. Il a pas joué pendant un mois.
Ouais, tu crois qu'ils ont commencé l'entraînement il y a un mois?
Non,
avant sa blessure. Non, mais depuis quand il travaille? Et depuis quand Wilkinson est là? Et depuis quand il travaille avec lui? Non, je crois qu'en un mois, ils vont être capables de reproduire d'autres formes de jeu?
Bah, c'est la question que je posais.
Moi, je te le dis, non.
D'accord.
Surtout dans le jeu offensif. Défensivement, tu peux changer des choses. Mais offensivement, c'est beaucoup plus fin, ça demande beaucoup plus de travail. C'est pas pour une absence d'un mois que tu vas pouvoir révolutionner tes systèmes offensifs. Je pense pas.
Allez, on clôt cette page rugby qui est au demeurant.
C'est bien, il y a du nerf.
Il y a de la niaque aujourd'hui.
On est défensif.
Allez, on enchaîne en musique.
I recognize you, mother. the six nimble frog ran across the golden moss, following behind us, following behind us. The WAC point of Remingtons at the tree. They couldn't find us, couldn't find us. Can't find us, can't find us, can't find us.
Et ben voilà, c'était quoi, monsieur Gonzalo, s'il vous plaît, pour nos auditeurs?
Devon Rabenert.
Voilà. Et ben, il est 13h, vous êtes toujours au Café des Sports sur Principe Actif, que vous pouvez écouter partout dans le monde sur principeactif.net ou réécouter via maintenant le podcast sur notre site. Vous allez, il y a podcast, vous retrouvez le nom de l'émission, et puis après, elles sont classées par date. Si vous n'avez pas eu l'occasion, ou si vous voulez la faire écouter vos amis, vos collègues, ou si vous voulez aussi nous contacter, n'hésitez pas à envoyer un mail sur la page du club, sur la page
du club du Café des Sports.
Sur le club du Café des Sports, aussi via le Facebook. Et on parlera de vos clubs, on viendra vous rencontrer, pourquoi pas faire un petit sujet sur votre association, sur vos résultats, etc. etc. Ami Raoul, lève ton verre et surtout ne le renverse pas. Votre humeur est-elle d'humeur maussade comme ces derniers temps, ou est-elle vous allez pas nous reparler de l'arbitrage après cette merveille de match entre Nancy et Bordeaux, je suppose?
Non, ça reste du foot, donc spécial dédicace à un ami qui est pas là, ça m'intéresse pas.
Mais votre humeur est-elle joyeuse?
Mon humeur est à la question. Mon humeur est à la question. Je vais faire un petit clin d'œil là encore à quelqu'un qui est passé dans les studios. Monsieur Loïc Lantoine, là, qui nous avait bien secoué avec des questions vachement intéressantes de profane. Donc, on va rebondir un petit peu là-dessus. À l'heure du remaniement, la question, c'est pourquoi vous marrez? J'ai rien dit encore.
Ah non, c'est mon accroche de samedi prochain.
Ah, c'est ballot, hein. C'est ballot. Donc, ça y est, j'ai perdu les pédales. Donc, je disais, la question à l'heure du remaniement, c'est les connexions entre politique et sport, entre valeurs humaines et sport, entre culture et sport. Voilà, c'était ça ma question. Moi, je suis pas un tout jeune, j'ai grandi devant des sportifs qui avaient le pouvoir de s'exprimer clairement, le devoir de le faire par moment, et surtout qui prenaient leurs responsabilités. On était outre-Atlantique tout à l'heure dans la discussion sur la lettre H, on a parlé de sportifs américains. Il y a quand même des gens qui ont pris des engagements majeurs. Un mec qui s'appelait Cassius Clay, qui a changé de nom, et qui derrière a refusé la conscription. C'est quand même un acte fort, il l'a fait publiquement. Kevin avait le poing brandi en l'air, mais il avait pas de gants au bout de la main, donc il pouvait pas parler de Tommy Smith. Mais quand même, podium des JO de 68, on a vu la cause noire être mise en avant par deux athlètes sur un podium. C'était du jamais vu, il risquait une suspension à vie, puisque tout geste politique était prohibé dans le code olympique. On a vu également un Polonais au JO de Moscou faire un bras d'honneur à la foule en gagnant le titre olympique, hein, Kozakiewicz, le perchiste. Voilà, c'était le sport était aussi une plateforme d'expression, était une exposition de certains mouvements sociaux, de certains mouvements de colère. Qu'est-il devenu par rapport à ça? Est-il encore un média pour transmettre certaines valeurs? Et justement, ces valeurs, quelles sont-elles? Loïc Lantoine nous avait alerté, il avait chauffé un peu notre ami rugbyman là, en lui disant, mais tu fais un sport de facho. Voilà.
C'est malheureux à dire, mais c'est un peu vrai.
C'était son questionnement. Alors, on va pas rentrer dans le pour ou dans le contre, mais quelles valeurs représente un sport? Quelles valeurs sont médiées à travers le sport? C'est ce qui justifie sa place dans l'éducation, a priori, c'est qu'il transmet certaines valeurs. C'est ce qui doit justifier aussi sa place dans le cœur de la population. Alors, on regarde, on parlait de remaniement, on se rend compte que finalement, à chaque fois que politiquement des sportifs ont été exposés, ils étaient exposés sur des partis de droite qui prônaient un petit peu la réussite sociale à tout craint, l'individualisme, et voilà.
Parlerais-tu d'un double champion olympique normand
qui vient de se faire coiffer au poteau par une karatéka normande, née à Évreux également.
Voilà.
Donc, alors justement, moi je faisais un parallèle, ces gens-là, ou ceux issus également de l'athlétisme qui ont été ministres, ou ceux issus de l'escrime, je peux le comprendre, sport individuel. Voilà. Il y a une continuité, on cherche la performance, l'élitisme, donc on se reconnaît dans certains mouvements, dans certaines valeurs. Ça ne me surprend pas, ça ne me choque pas. Le seul facteur, c'est quand même que moi aussi je suis issu de l'athlétisme, C'est un milieu ultra mixte, ultra métissé culturellement, ethniquement parlant. J'ai un peu de mal à voir des gens issus de ce milieu-là aller sur le trottoir très à droite. Mais bon, c'est comme ça. Par contre, les sports collectifs, on est pas mal à en être issus ici. Les sports collectifs sont censés même amener et médier d'autres valeurs. Le partage, la solidarité, etc. L'acceptation de l'autre. Le sport collectif maintenant à haut niveau, il t'apprend quoi? Il t'apprend, l'ascenseur social. C'est ça, tu sors de nulle part, t'étais dans une cage d'escalier, tu montes dans un ascenseur, tu deviens riche et célèbre. Pourquoi faire? Pour te payer des putes, tant qu'à faire. C'est à ça que ça sert. Une belle bagnole. Et te comporter comme un gland et comme un crétin sans savoir aligner deux mots. Donc, c'est ça la promotion du sport. Et puis surtout, tu fais des caprices de starlette, tu dis non, mais moi je veux plus jouer là. Même quand t'es qu'une starlette de bazar ou de bas étage et que tu joues au troisième niveau national. Non, moi je veux plus jouer là, j'ai déjà donné, j'ai eu l'amour du maillot, mais maintenant faut me le rendre. Parce que quand même, je vais avoir une grosse progression salariale. Donc là encore, les valeurs dans le sport, je les retrouve pas là-dedans. On retrouve pas ces vertus de solidarité, etc. On parlait de combat tout à l'heure en rugby. Bah, le combat, vous y allez trois têtes l'une contre l'autre, avec des mecs qui vous tiennent par les coucougnettes derrière, et encore trois autres qui poussent avec vous. Si vous n'êtes pas les neuf, vous êtes mort. Alors expliquez-moi pourquoi ces valeurs-là se perdent dès que l'individu, lui, a le droit de se positionner.
Non, c'est 8.
On est 8 en mêlée.
Oui, j'ai dit quoi?
9.
Ouais, ok. Bon, je comptais le petit nabo qui était derrière.
Le petit aboyeur, le caporal.
Voilà, le Napoléon. Petit caporal. Et voilà, langage militaire, culture militaire, sport de droite.
Mais ouais.
Là encore. Donc, c'était des petites questions comme ça. C'est pas un billet d'humeur, ça me fait réfléchir. Et c'est vrai que dans notre pratique de tous les jours, en tant que spectateur parfois, quand on voit le comportement d'une équipe ou d'un sportif, on peut s'étonner. Mais également, lorsqu'on est sur les terrains à côtoyer d'autres personnes, on s'étonne de ne pas retrouver ces valeurs de solidarité, d'amitié, etc. Moi, j'ai des amis qui sont issus du milieu sportif, je peux les appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Si j'ai un problème, ils sont là. Je sais pas, c'est venu à travers le sport, ça. C'est ce qu'on recherchait dedans, et c'est ce qui fait qu'on aime encore ces pratiques-là.
Eh ben, on va fermer...
C'est beau.
Qu'est-ce qu'il est chiant, il prépare jamais rien à chaque fois.
Juste pour compléter et pour aller sur la... Pour parler du sport rugby qui a largement été évoqué, il y a un club qui me fait référence par rapport aux valeurs, c'est Oyonnax. Oyonnax, c'est quand même cité minière par excellence et où il n'y a pas beaucoup d'argent, paumé dans le milieu de l'Ain. Et le projet de club est calé sur le projet de ville. Et les joueurs pros sont calés sur la ville et sur les cités minières, sur les cités ouvrières notamment, avec un gros travail entre le club et la ville pour que les gens du club soient imprégnés de ce qui a fait la force de cette ville et pourquoi ils sont là à l'heure actuelle, pourquoi il y a un club de rugby qui fonctionne et qui leur donne les moyens d'exister.
Moi, j'ai entendu un entraîneur cette semaine qui rappelait aux membres de son équipe que son club, son équipe s'était construit sur des valeurs... Alors au début, il avait utilisé le terme ouvrière, voire bouseux, tiens, comme ton OPE, cher à ton cœur. Et en transposant ça sur des domaines techniques, en disant que c'était d'abord des valeurs laborieuses.
L'abnégation.
Voilà. Et visiblement, les gens ont tendance à l'oublier. À partir du moment où ils rejoignent ces clubs-là, ils oublient ce qui les a attirés dedans, et ce qui fait que ces clubs sont devenus ce qu'ils sont.
Et je crois, pour clore sur le rugby, je crois qu'il y a deux... Où il y a, c'est vrai que c'est un sport par moment de droite, mais je crois que ça dépend aussi des régions et des clubs. Dans le nord de la France, c'est une grosse tradition étudiante qui a permis aux clubs, et je pense que le milieu étudiant est quand même un milieu plutôt aisé et qui pourrait être plus proche, et ça fait bien socialement de jouer au rugby. Dans le sud-ouest notamment, c'est des valeurs plus proches de la terre, plus proches du travail. Quand on parle de des piliers basques qui ont alimenté les bancs de l'équipe de France pendant longtemps, ils étaient tous paysans, éleveurs, et la force basque, c'est pas par hasard, et c'était lié au métier. Et je crois qu'il y a une vraie cause entre les emplois, les régions et les pratiques aussi.
Mais ça sous-entend que le rugby existe au nord de la Loire. C'est un peu prétentieux de dire ça, non?
Il eût existé. Allez, musique.
Ciao.
Ciao Bernardo.
mother's sighing. The news had just come over. We had 5 years left to sighing. News guy wept when he told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. A brain hurt like a warehouse, had no room to spare. I had to cram so much, everything in there. All the fat, skinny people.
Allez, chanson hommage au petit Baud, au mini Baud, reprise régulièrement par eux sur scène ces derniers temps.
5 years, David Bowie. Ouais.
Alors, ils en ont un peu plus maintenant.
C'est ça.
Et ben après, monsieur Raoul, nous allons vous donner la parole, monsieur Damienski, pour refaire le tour de la NBA. Vous vous régalez enfin parce que le championnat est repris depuis quelques temps.
Ah, le basket spectacle, le basket champagne, le basket où on a le droit de courir 6 pas sans même dribbler et puis marquer des paniers stratosphériques. Oui, c'est la reprise du basket américain, nord-américain, la ligue NBA avec bah, du coup ses scores fleuves, ses non-défenses, ses marchés, comme j'ai dit, à répétition et puis ses actions de jeu tout bonnement incroyables tout de même. Avec, on le rappelle, une saison régulière composée de 82 matchs. Hein. Donc on en voit du spectacle et on en entend des résultats. On va commencer par les résultats de la nuit, on va parler un peu de statistiques et puis on va redonner 2-3 infos comme la semaine passée. Les résultats de la nuit, c'est la victoire des Mavericks de Dallas face aux Hornets qui étaient jusqu'alors invaincus. Donc victoire 98-95 de l'équipe de Dirk Nowitzki.
Comme quoi, faut pas passer dans l'équipe rubrique basket parce qu'ils ont fait un papier sur les Hornets hier. Voilà, ça y est.
Comme quoi,
ils perdent leur premier match.
Comme quoi. Utah qui a affronté Oklahoma City, eh bien, c'est Oklahoma de Kevin Durant qui s'est imposé 115-108. Les Phoenix Suns qui sont imposés à domicile face aux Denver Nuggets 100-94. Orlando de Dwight Howard, entre autres, 89-72 face à Memphis.
Et de Mike Pietrus parce que Van Gundy, il est coup de principe actif.
Ouais, parce hein? que.
Il On a... s'était plaint la semaine dernière.
Qu'il jouait pas.
Qu'il jouait pas. Et depuis, Pietrus joue et Orlando gagne.
Et puis, entre-temps, Pietrus a collé un 8-9 à 3 points, je crois, en match.
Je crois qu'il n'y a pas que eux qui nous écoutent, d'ailleurs. On nous remercie pour la programmation musicale.
Ouais. 8-9, c'était assez énorme, d'ailleurs, Mike Pietrus, la semaine dernière, parce qu'il a pris aucune position à 2 points. Il a pris que des positions à 3 points dans sa rencontre. Et il en met 8-9 à 3 points, c'était assez énorme. Voilà. Orlando, Memphis, en tout cas, 89-72 pour hier soir. Et puis, bah, Charlotte, face à Minnesota, 113-110. On y reviendra sur Minnesota et leur ailier fort incroyable qu'est Kevin Love, parce qu'ils ont aussi des noms, ces Américains. C'est quand même la classe, quand même, de s'appeler Kevin Love. Je veux dire, tu peux t'appeler Brandon, tu peux t'appeler Raoul de Pont-Aven, ça sonne quand même vachement moins bien qu'un Kevin Love. On y reviendra.
Il faut l'assumer, quand même.
Il faut l'assumer.
Parce que c'est le Dr Love.
Surtout quand tu es grand et rouquin. Parce qu'il est grand et rouquin.
Et puis t'es taillé comme un bûcheron, hein, parce que vous me parlez des fois de troisième ligne, deuxième ligne rugby. Le gamin, vous le mettez, je pense, sur un gazon. Il peut être pas mal aussi. Et puis, bah, du coup, les Clippers face au New Jersey, bah, c'est New Jersey qui se déplaçait à Los Angeles, la deuxième équipe, hein, pas l'équipe Beast, puisque on en parle davantage maintenant, mais c'est vrai qu'ils sont complètement asphyxiés par les Lakers. Et bah, les Clippers se sont, ont été battus 110-96.
C'est quand même un phénomène unique, ça, je crois. Deux équipes de sport professionnel de la même ligue qui jouent dans la même salle. Parce que maintenant, c'est le cas.
Alors, je suis en train de chercher. En même temps, tu regardes le football, l'Inter Milan et le Milan AC, c'est le San Siro.
San Siro. C'est San Siro, les deux.
Ouais.
Et par contre, à Rome, non, c'est pas le cas.
Non, je crois pas.
Je me demande si au baseball, ils ne jouent pas dans le même stade aussi. Les Yankees et les. Comment ils s'appellent, notre équipe de MLB?
Dodgers.
Il y en a une deuxième équipe à New York.
Je ne sais pas. Bon, bref, continue, on va essayer de trouver ça.
Affaire à suivre. Donc, je vais vous donner ces petits résultats pour vous rappeler que bah, il y a du coup deux conférences, une Est, une Ouest. Dedans, il y a encore des sous-divisions, mais on va rester sur cette petite découpe un peu. Je vais aller droit au but. L'Est et l'Ouest. À l'Est, eh bien, c'est Boston qui mène la marque avec 8 victoires et 2 défaites. Devant Orlando, justement, avec 7 victoires et 3 défaites. Alors qu'à l'Ouest, après un début de saison tonitruant, les Lakers.
Pardon, tu as précisé les placements à l'Est, donc tu peux redire, s'il te plaît.
Premier, Boston,
deuxième.
First, deuxième, Orlando.
Mais il n'y a pas Miami.
Non, il n'y a pas Miami qui a encore perdu il y a 2 jours.
Ouais, quatre défaites, je crois.
Ouais, quatre défaites, on se demandait comment la sauce allait prendre entre le trio de choc. Alors, il y a déjà des journalistes qui disent qu'il y en a qui joueraient peut-être trop, pas assez.
Ouais, c'est même eux qui l'ont affirmé, je crois. Je crois que c'est D-Wade qui a dit qu'il ne pouvait pas jouer 35 minutes. Qu'il fallait que les autres jouent. Mais pour l'instant, c'est soit D-Wade, soit LeBron James qui marque les esprits. Et par contre, Bosch, il est porté disparu.
Mais attends, ouais. Hier soir, il y a une nouvelle émission sur Canal, ça s'appelle Canal NBA. Tous les lundis soirs.
Ils écoutent aussi Principe Actif.
Ouais, exactement, tous les lundis soirs. Et Monclar et Eddie affirmaient un truc. Ils disaient, de toute façon, 3, c'est trop. Ça peut être 2. Maintenant, Bosch, il faut qu'il prenne le rôle de Rodman, c'est-à-dire poser des blocs, des rebonds, marquer des paniers de rapia, mais il peut pas prendre également le jeu à son compte. Voilà, c'est tout. Et Monclar de dire, le problème, c'est qu'il sait pas faire. Parce que c'est une ballerine dans la raquette. Il ne pourra pas faire ça. Donc, ils sont condamnés. Pour lui, ils n'atteindront pas la finale.
Affaire à suivre, est-ce que la sauce prendra pas durant la saison régulière et qu'en playoff il soit capable d'un exploit? On verra, parce que c'est quand même des joueurs.
C'est là que ça compte, parce que tu rappelais qu'il jouait 82 matchs dans la saison. Il n'y en a pas 82 qui ont une grande importance.
On en est à une dizaine à peine, et puis bon, faut que la mayonnaise prenne. Et on verra, c'est quand même des joueurs de hors normes que sont en l'occurrence un Dwayne Wade et LeBron James. Du coup, à l'ouest, les Hornets mènent la ligue avec 8 victoires et une défaite. Je l'ai dit hier, ils ont perdu face aux Mavs, c'était c'était leur première défaite. Et puis bah, ce sont les San Antonio Spurs qui se refont une santé, qui viennent d'enchaîner 7 victoires d'affilée, si je ne m'abuse, avec, on le rappelle, hein, dans la raquette, le grand et costaud Tim Duncan. Enfin, en tout cas, c'est un joueur plutôt classe sur un terrain assez fin. Je dis grand et costaud, mais il n'est pas dans un registre de bourrin, mais plutôt un joueur qui s'écarte un petit peu du panier, comme fait signe notre ami Gonzalo.
En vieillissant, ouais.
Fundamental.
Ouais, monsieur main propre. Hein.
Enfin, et du coup, on le rappelle, autour de lui, il y a quand même Manu Ginobili qui est quand même peut-être
le meilleur blanc
non,
y a, du monde.
Non, mais il y a sûrement un des meilleurs ailiers étrangers, en tout cas de la NBA, pour pas dire le meilleur. Voilà, puisqu'on pourrait parler de Pau Gasol qui pèse le plus dans toutes les équipes que compose la NBA, mais je pense que lui, c'est le meilleur à ce poste-là en joueur étranger. Et puis Al Jefferson Richard Jefferson. qui en arrière ailier lui aussi, puis Tony Parker qui n'avait pas joué les championnats du monde cet été, qui voulait se relancer un petit peu, mais qui est plutôt pas mal avec ses stats. On va y revenir d'ailleurs
ces trois joueurs là, les trois derniers, enfin non, même pas Duncan, Parker, Ginobili et Jefferson, tout l'été ils ont bossé à mort le physique. Il y avait un reportage hier soir sur Canal, ils ont bossé à mort le physique. D'ailleurs, il y a un petit détail croustillant, parce que notre ami Parker, il voulait s'entraîner à Hollywood, hein, parce que là où réside sa petite amie. Donc, il s'est entraîné dans un gymnase personnel d'un ami milliardaire de sa femme.
D'accord, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Eh bien, justement, venons-en aux statistiques. D'ailleurs, ça pourrait être une bonne surprise dans la saison, les Spurs, du coup. À la main, au point, on parlait de Monta Ellis la semaine dernière, qui était leader. Eh bien, cette semaine, il a été... il est passé par... Kevin Durant est passé devant lui. Donc, en marqueur, c'est Kevin Durant avec 28,2 points qui mène la Ligue actuellement, donc en score individuel. Kevin Love est passé meilleur rebondeur. On va savoir pourquoi sous peu, qui est donc l'ailier fort de Minnesota. Il devance maintenant Joakim Noah, qui l'était la semaine dernière. J'essaie de vous redonner un petit peu les statistiques de la semaine passée. Oui,
Joakim Noah a plus chiffré au scoring qu'au rebond cette semaine.
C'est pas faux. Et Rajon Rondo, qui est complètement devant tout le monde en passe décisive, avec toujours 15,1 passe décisive, joueur meneur des Boston Celtics.
Toujours sur l'émission de Canal, hier, ils se sont amusés à faire un montage, excuse-moi, ils se sont amusés à faire un montage des enregistrements sur Joakim Noah. Et alors, à chaque fois qu'il prend le shoot, le commentateur NBA américain dit « Non, ne montrez pas ça, vos enfants, coupez la télé, il ne faut pas montrer un geste pareil !»
Par contre,
il
faut vraiment une webcam, parce que là, on a un striptease de Damien.
Train de casser tout. Je crois que tu lui as piqué ce qu'il avait noté dans ses...
À un moment donné, il faut arrêter, on est dans un média local et associatif, et on me cite la chaîne cryptée la plus privée de la télévision, ou de la boîte carrée, devrais-je dire, trois fois de suite. Je continue donc avec, du coup, les statistiques des Frenchies.
Je vais le biper la prochaine fois qu'il
parle. Joueur français, justement, Joakim Noah, maintenant, c'est 16,5 points par match et 13,25 rebonds et 2 contre. C'est donc le deuxième meilleur rebondeur de la Ligue. Boris Dio, 11,7 points, 4,3 rebonds et 2,91 passes décisives. C'est précis, ça. Hein. Tony Parker, justement, meilleur marqueur des joueurs français en NBA, 18,33 points par match avec 3,3 rebonds et surtout 7,67 passes décisives. C'est important, le 0,67. Hein. Il en fait pas 8, il en fait pas 7, il en fait 7,67 par match. Et puis, Nico Batum de Portland, 14,18 points. Ronny Turiaf, 5,86 points.
Blessé d'ailleurs.
Mika Pietrus, 8,38. Alors par contre, on va pas parler de Petro ni de Maini. C'est ridicule, c'est infâme, c'est rien du tout. Comme c'est famélique, on peut dire ça.
Non, un jour, faudra que tu en parles un jour. C'est-à-dire si ces gens.
Ratio à la minute.
Ouais, ratio minute. Et surtout, est-ce que ces gens-là ne sont pas partis trop tôt? Mais après, c'est un
alors,
débat.
Alors justement, ouais, tu vas pouvoir développer derrière, puisque Petro et Maini, c'est limite du rien du tout. Mais ce n'est pas non plus Aginka, Serafin ou Papsi, qui eux n'ont pas encore rentré, ne sont pas encore rentrés une seule minute sur un terrain de NBA cette
Papsi
saison.
Papsi pourra pas. Il est en ligue de développement pour l'instant.
D'accord. Et puis, Aginka et Serafin.
Ils sont montés dans l'ascenseur.
Oui, c'est ça.
Ils ont pris un centre, ils ont quand même pris quelque chose à 6-0, quoi.
Pas faux. Et puis bah du coup mes petites infos, alors là j'y viens enfin sur notre Kevin Love avec son nom magique, son nom qui nous donne beaucoup d'entrain.
Le dernier Magic qui mettait pas mal de Love, il y a eu quelques problèmes.
C'est pas faux, j'aime beaucoup. Donc énormissime Kevin Love, hein, troisième saison NBA, je vous le situe un petit peu, il a 22 ans, c'est un solide gaillard, on l'a dit, plutôt blanc. Il joue donc ailier fort, c'est numéro 4, numéro 4 en NBA parce qu'on parle de 4, de 5, donc 5 c'est le vrai pivot intérieur. Lui c'est le numéro 4. Eh bien écoutez, tout simplement, la semaine dernière, il a combiné un double-double stratosphérique. 31 points, 31 rebonds, c'est du incroyable, mais vrai, à tel point que ce n'était pas arrivé en NBA depuis 28 ans. Un match où Moses Ballone, alors ça c'est pareil, hein, ça va vous rappeler des choses, je pense qu'à notre Gonzalo, ça va lui dire des...
Ça lui fait friser la moustache d'ailleurs.
T'étais tout jeune à l'époque. Moses Ballone, eh bien, avait compilé à l'époque 38 points et 32 rebonds. Donc depuis 32 ans, depuis 28 ans, n'était pas arrivé une telle statistique, plus de 30 points et 30 rebonds dans un match. Incroyable mais vrai, donc 31 points, 31 rebonds, et la taille un costard, hein, notre ami Kevin Love.
Il y a des mauvais angles. Non, il y a des mauvais angles qui disaient que Moses Ballone truandait un peu, c'est-à-dire qu'il s'amusait à rater des
petits shoots en dessous, pour reprendre,
clac, clac, il la reprenait et comme ça il faisait grimper un
peu
ses
stats. Tu faisais pas pareil en Benjamin ou en minime, tu faisais semblant, tu lançais très fort contre la planche ton lancer franc pour reprendre le rebond et remettre 2 points derrière.
Question, le rebond c'est la même appréciation qu'en Europe, la balle elle doit être contrôlée ou elle est juste punchée, touchée, etc.
Non, c'est le rebond, c'est la prise.
C'est le contrôle, non ?
C'est la prise. Paul Wall, alors ça y est, j'ai des nouvelles, on a été plus loin dans le détail, je vais revenir sur les commentaires de notre ami Gonzalo la semaine dernière qui se demandait combien de triple-double il avait pu réaliser depuis le début de la saison. En fait il avait été plusieurs fois à une unité d'un triple-double, ce qui était quand même assez énorme, alors que c'est un jeune joueur, un rookie, il vient d'arriver dans la ligue, on appelle ça les rookies. Notre ami Mr. Wall a réalisé au bout de son 6e match un triple-double, ce qui fait de lui le plus joueur le plus
le plus jeune triple rebondeur,
pas le plus jeune, puisqu'en fait LeBron James avait réalisé plus tôt en termes d'âge un triple double, par contre il l'avait fait plus loin dans la saison, sa première saison. Donc en fait après 6 matchs c'est la première fois qu'un joueur réalise ça après 6 matchs en NBA, un triple-double. Voilà. Donc,
on peut se demander qui a joué en NBA sans avoir un record. Parce qu'ils sont très forts pour trouver un record du machin.
Les Américains.
Du ratio à la seconde.
Joe, les records. Ouais.
Tu parlais de Jean Mur, là, John Wall. Et on parlait de Noah aussi. Il y a eu un petit papier sympa sur le nouveau ricain de Villeurbanne, Walsh. Mesdames, si vous habitez la région lyonnaise, visiblement, méfiez-vous, parce que le premier critère qui a retenu son ex-coéquipier à Florida, Joachim Noah,
son surnom, le Cobra.
Non, c'était pas le Cobra, mais il disait chaud lapin.
Alors,
une dernière.
Allez, dernière info.
Dernière de chez dernière. On suit avec attention l'activité professionnelle de notre ami Alan Iverson, qui a signé à Beşiktaş, je vous le rappelle, qui devait donc jouer vendredi dernier. Je m'étais avancé, hein, mais ses débuts ont été repoussés. Il devrait ce soir officier pour la première fois sous ses nouvelles couleurs en Eurocoupe. Il semblerait qu'on en évoque.
Eurocoupe, oui, puisque c'est avec Urban. Ouais.
Voilà. Eurocoupe et contre l'équipe impossible à prononcer de VRSAC. Alors, est-ce qu'on dit Vrach?
Versace.
Versace. Ou Versace. Bref, ce soir, on suivra ce que fera notre ami Allen Iverson. On en reparlera la semaine prochaine, puisqu'on essaiera de faire le petit suivi d'Allen, The Answer.
Avant de clore cette page basket en musique, et nous y reviendrons ensemble, Damienski, deux petites infos ou un complément par rapport au baseball. Il y a effectivement deux clubs de baseball sur la ville. Le premier joue
la ville de New York, hein,
sur la ville de New York. Le premier joue en Ligue nationale et c'est les Mets de New York City,
voilà,
de New York, qui jouent au City Field, et les seconds étant les Yankees. C'était la première info, et la seconde c'est pour les supporters de la LM Basket plutôt. Sachez, si vous n'avez pas lu les coin-coin locaux ou si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux à la mode, à savoir Facebook, Monsieur James Matisse vient rejouer en France. Il a signé à Aix-Maurienne pour une pige de 6 semaines. Il en avait apparemment marre de la Finlande, où il a cartonné à 16 points de moyenne et 10 rebonds depuis le début de la saison. Donc on le reverra peut-être à Évreux.
Qu'est-ce que t'avais dit, Gonzalo ? Bon choix. D'accord.
Je m'étonnais de ce choix de la Finlande. Hein, ouais. Et les gars du basket ont clairement dit que c'était transitoire. Voilà.
Voilà, donc il est.
Ursafitoire, on m'avait dit, moi. J'ai rien dit.
Donc il est, il est, comment dire,
comme d'autres avant. Hein.
Il a signé.
Bercitoire.
Il avait, comment dire, donc il a signé à Aix.
Il a signé à Aix-Maurienne pour une pige de 6 matchs.
De 6 matchs, et s'il fait l'affaire, il se pourrait qu'il reste, et du coup il viendrait jouer contre la LM début janvier.
Ah ouais.
Ce qui ravira certains nombres de spectateurs, parce que je crois qu'il a quand même laissé une bonne image dans la ville d'Evreux.
Je crois qu'à son départ, il avait été très classe. Il avait dit au revoir à tous les gens du club.
Ah, moi, je l'ai pas eu au téléphone.
Non, mais bénévoles, etc. Il était même allé voir les gens de la presse, en poussant leur bureau, en disant merci pour le boulot qu'on a fait ensemble.
Et bien, Damienski, pour clore cette. Ça va faire deux semaines de suite qu'on va passer de votre musique. Non. Ça va pas durer longtemps.
C'était pour plaire à Gonzalo. Pace One qui fait un titre hommage à des grands joueurs NBA. Et le titre, c'est justement Four Quarters, comme les quatre quarts-temps que compose un match de basket. Avec un sample bien connu.
Let me ask you a question. What color is this?
It's green.
You're black, I'm white, and this is green. When making a business decision, the only color that matters is green. Mr. Green.
Journal entry, a hip-hop blog, played over airwaves, seen over by God, irrelevant expression, rooted deep as the mob, for my people to use if they feeling the vibe. Now, I'ma get to rapping, y'all scream like you out here rooting for your favorite basketball team. Like your Parrish, I'm Bird, your Magic, I'm Kareem. Like your Sam Cassell and I'm the Dream Hakeem. Like your Kobe, I'm Shaq, your Ginobili, I'm Duncan. Like we going for a real, let's get it jumping. Let's get it going like back in the fell form. Back when Willis Reed came into the game scoring. Back when Bill Bradley wasn't so darn boring. Back with Phil Jackson before he had Jordan. Going like the coke that Scarface was snorting. Banging like Billy Bob Thornton. Yeah, white collar, blue collar, I holler, you holler. Let's get together, four quarters, make a dollar. We ain't getting younger and the block is getting hotter. It takes a whole community for us to raise a scholar. White collar, blue collar, I holler, you holler. Let's get together, four quarters, make a dollar. We ain't getting younger and the block is getting hotter. It takes a whole community for us to raise a scholar. Generic canned goods, free cheese and food stamps. People running the street like they at boot camp. Pigs on patrol, hoes on the stroll. The clockers outside on the block ain't wearing gold, nah. They wearing beat up jeans and new Nikes. Short sleeve polo shirts and new white tees. Boost mobile phones, also known as a chirp. You hear a ringtone play when the fiends want work. Brothers getting pinched, snitching on each other. Cops is like Lawrence Fishburne in deep cover. Acting like they not cops, but they are cops. They try to mingle with the crowd and they bar hop. Sniffing for narcotics just like they the canines. Troopers everywhere up and down the state line. 10-year-old kids selling crack in the daytime. The hook could take your life, but it won't take mine. White collar, blue collar, I holler, you holler. Let's get together, four quarters, make a dollar. We ain't getting younger and the block is getting hotter. It takes a whole community for us to raise a scholar. White collar, blue collar, I holler, you holler. Let's get together, four quarters, make a dollar. We ain't getting younger and the block is getting hotter. It takes a whole community for us to raise a scholar. Yes, yes, y'all.
Keep on.
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 Benzes and Beamers, no more laundromat, laundry goes to the cleaners. No more just settling, now I'm pulling divas and skeezers. And them white beater shirts with new sneakers. The ones that was blinded before, but now they see us. They wanna help me max out my visas.
come through and snack on some Cheez-Its. Pour a glass of champagne, take some snapshots. Eat a strawberry tart, use my laptop and my Discover card. Shop from home, roam naked through my crib while she talk on the phone. Oh, candlelight dinners, 50-inch plasmas in every room. You ain't even gotta ask, brother. Red carpet treatment, what else could you ask for? It's like fighting some dude that got a glass jaw. You hit him in the chin and you win. Your old life ends and your new one begins. Yeah. White collar, blue collar, I holler, you holler. Let's get together, four quarters, make a dollar. We ain't getting younger and the block is getting hotter. It takes a whole community for us to raise a scholar. White collar, blue collar, I holler, you holler. Let's get together, four quarters, make a dollar. We ain't getting younger and the block is getting hotter. It takes a whole community for us to raise a scholar.
C'était donc Pace One avec The Four Quarters.
Et il y a des notes de comme d'habitude qui reviennent.
Un gros sample, je l'ai évoqué au début. Hein. Je l'ai évoqué, gros sample pompé à mort. Ouais.
Allez, et ben on va attaquer la dernière ligne droite de ce Café des Sports avec bien évidemment nos coups de cœur, nos coups de gueule. Un agenda du week-end avec le sport hébroïcien. Plus particulièrement, et puis voilà, et puis on fermera le Café des Sports sur principactif.net ou 102.4 partout dans le monde, et non, nous l'espérons, partout dans le monde sur 102.4, et puis voilà, n'hésitez pas venir chatter en direct sur l'émission, nous donner vos résultats, on est votre radio, vous êtes nos auditeurs, et nous vous aimons,
c'est beau.
Vous êtes tous amour.
Pas de démocratie locale.
Sans PA.
Allez, et ben Gonzalo, un coup de cœur, un coup de gueule.
Ouais, j'en ai deux. Alors, on va commencer par le coup de cœur pour une fois. C'était l'escrime. Moi, j'ai regardé l'escrime samedi. L'escrime, c'était chouette, notamment c'était quoi? C'était en
par équipe.
Par équipe. Fleuret, hein?
Épée. Aucune médaille au fleuret.
Épée, c'était vraiment beau. Mené de 8 points, 8 touches, les Français. Ils sont revenus, ils gagnent de 4 ou 5, 6, je sais plus. Et non, ce qui m'a fait chaud au cœur, c'est de voir un mec comme Jeannet, qui est énorme, qui est là depuis.
Triple médaillé.
Ils sont invaincus quand même depuis 2001 ou 2003, je sais plus. Et c'est super chouette. Et le dernier tireur, lorsqu'il fait sa dernière touche de la gagne, il enlève rapidos son casque et il va dans les tribunes chercher tous les membres de l'équipe de France qui ont tiré pour cette équipe-là depuis 2003. Et j'ai trouvé ça hyper grand. Voilà, le partage d'une victoire, j'ai trouvé ça hyper grand.
Et ben, je vais
pour un sport qui est quasiment individuel, même là, si c'était un match par équipe, mais j'ai trouvé ça hyper grand, quoi.
Moi je vais rebondir sur c'était également mon coup de cœur, mais je vais aller plus loin dans la démarche. C'est par rapport à l'organisation, le lieu quand même fabuleux qui a été restauré en partie à l'occasion pour faire la promo, à savoir le Grand Palais. Et ce que j'ai trouvé vraiment très bien quand on nous parle de handicap, c'est que en parallèle des championnats du monde d'escrime valide, il y a dans la même compétition le handisport. Et pas comme ça peut être le cas sur les Jeux Olympiques, où il y a une compétition pour les valides et une compétition pour les handicapés. Okay. Là, c'est la même compétition. Je trouve que c'est un des gros points forts de l'escrime.
Et dernier coup de cœur sur l'escrime, c'était quand même la dernière apparition de Ramayad.
Damienski.
Coup de gueule, non, on fait les coups de cœur alors là.
Si tu n'as pas de coup de cœur.
Coup de cœur, j'en ai un. Demain, inauguration, et je vais me faire bâcher, des terrains synthétiques l'EFC 27, en tout cas à la Madeleine d'Evreux.
C'est coupé.
Au stade municipal de la Madeleine, avec l'inauguration officielle des deux terrains synthétiques. On le rappelle quand même qu'il y en a un réservé à l'élite et l'autre qui est ouvert au public, avec la présence d'un champion du monde 98 quand même de l'équipe de France de football.
Réservé à la compétition, sauf qu'il n'est pas homologué. Alors,
un joueur, pas un des joueurs phares, mais un des joueurs de l'équipe de 1998. Pas loin. Donc, je peux pas en dire mieux, mais pas loin. Demain, 14h, au stade de la Madeleine, au stade municipal. Voilà, présence d'un champion du monde 98. Donc, vous êtes les bienvenus et venez nombreux.
Allez, coup de gueule.
Mon coup de gueule, c'est sur le. Enfin, c'est un coup de gueule, coup de cœur. C'est, alors, tu vas encore dire que je parle de la chaîne cryptée, mais sur la chaîne cryptée, dimanche soir, il y a Dugarry, il y a Menez, pardon, et le mec qui commentait le match était Olivier Rouillet. Eh bien, tous les trois ont dit, eh bien, on a vu un match de merde et on s'ennuie avec ce championnat de France de football. Alors c'est quand même un discours qui vient à contre-courant parce que généralement on nous dit oui mais le championnat de France ne baisse pas de qualité, bien au contraire, tatati, tatata. Et dans la semaine, Deschamps avait dit exactement la même chose. Il dit il y a nivellement, oui c'est vrai, mais vers le bas. Voilà.
Allez, Damienski, coup de gueule.
Non, pas particulièrement. Je vais pas revenir sur les défauts d'arbitrage et pour moi le besoin indispensable de la vidéo dans le football professionnel.
Mais pourquoi il y en a pas alors qu'au foot, au rugby, il y en a.
Ouais. Rien. Et avec le dernier exemple en date, le vol qualifié de l'AS Nancy Lorraine à Bordeaux avec un but qui n'est jamais un ballon qui n'est jamais rentré dans les buts de Grégorini et qui prend au passage en plus un chassé ou un Choumo Matahari dans le nez.
Tanguy, on pense à toi, nous sommes désolés, mais je pense que le Couvésien, pas le Couvésien, mais l'ami Boulkessien n'a pas dû ramener sa fraise sur ce coup-là parce qu'il doit pas en être très fier.
En même temps, Nancy changeait coach.
Et donc Nancy, le coach était très drôle et ils ont porté réserve.
Pour une fois.
Ils ont porté réserve au moment, juste après que l'arbitre ait validé le but, il y a une réserve technique et le coach Pablo Correa dit « Cette réserve a autant de chances d'aboutir que moi de gagner à l'Euromillion vendredi prochain. »
Et allez, juste pour clore sur moi, c'est un autre coup de cœur parce que j'avais pas spécialement de coup de gueule cette semaine, c'est les tennisman français qui sont en bonne forme à quelques semaines, à quelques jours de la finale de la Coupe Davis. C'est plutôt bien.
Ça, à Belgrade, ça va être la guerre.
Ça va être chaud.
Ça va être la guerre.
Souvenez-vous le match de hand il y a quelques années au championnat d'Europe.
Ça, c'est en Croatie, ça.
En Croatie, mais c'est le même état d'esprit, la même mentalité.
A-t-on retrouvé le plexus gauche de Gaël Monfils suite à sa victoire en demi-finale? Parce qu'à force d'appuyer comme un fou là, sur son plexus après chaque rencontre, il faudrait peut-être qu'il nous dise comment il fait. Parce qu'à un moment donné, voilà, faut arrêter de gagner des matchs grands comme ça et puis de se lourder en finale. Lui aussi, c'est un peu l'éternel champion qui réussit pas, lui.
Ouais, mais trois têtes de série battues... dans le même tournoi, c'est plutôt encourageant et ça progresse dans la régularité de la performance. Maintenant, faut mettre des petites croix
au
palmarès.
Et
ben, on va clore pour parler du sport hébroïcien et de ce que vous allez pouvoir voir ce week-end. On va le faire en tour de table. Peut-être que chacun a des informations. Damienski.
Un match amical de l'EFC 27 contre la réserve du FC Rouen.
Passionnant.
Voilà. La LM Évreux, vendredi, bien sûr, la passe de 9.
Allez,
peut-être.
C'est surtout ça, je crois, le gros événement, c'est ça. Pour samedi, il n'y aura pas de volée.
C'est le Portel, hein, précisons-le, voilà, hein, vendredi
avec
soir.
Avec deux ex-amicalistes en face, le Pelec et Ndiaye. Également dimanche, c'est gratuit, c'est au Pré Margot. Votre serviteur sera sur le prêt. Peut-être que pour la deuxième mi-temps, comme c'est l'habitude. Mais
bon, on compte sur toi.
Évreux Pithiviers, venez côté
championnat, match
amical. Oui, match de championnat contre Pithiviers. Venez côté Rivière. En général, j'ai le drapeau de touche et ça rigole et ça balance plutôt pas mal de conneries. Et puis la dernière info sportive, c'est du handball pour ceux qui voudraient aller en voir. Il y en a samedi soir. On le disait tout à l'heure. Au gymnase de Saint-Sébastien-de-Morsan, ils reçoivent la réserve de Saint-Marcel-Vernon du SMV. Match important et intéressant. L'entrée est gratuite et il y a toujours pareil, pas mal de monde dans la petite salle, dans le petit gymnase qui fait tant plaisir à Gonzalo, à savoir le gymnase Coubertin. On va clore ce café des sports en vous souhaitant une bonne journée, de bonnes rencontres sportives. Il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment. On est dans une période plutôt dense au niveau sport, donc n'hésitez pas à zapouiller, à lire et puis à nous envoyer aussi des informations sur le site de Principe Actif. On viendra vous rencontrer, on parlera de vous comme ça dans cette émission qui est aussi à vous.
Ouais, moi je me demandais si Dave était parti couvrir la route du Rhum, s'il est porté disparu, mais moi je voulais lui dire je t'aime, Dave.
Allez, Dave, reviens-nous. Allez, on ferme. J'ai une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Au revoir, Gonzalo.
À bientôt, et puis à la semaine prochaine, Brandon.
Au revoir, Damienski.
Bye bye, le café des sports.
Allez, il pleut pas aujourd'hui, mais par contre, on ferme. Hein. Désolé.
Instead of Tristan 2016, c'est un génie.
Et c'est...
pas vrai, c'est pas vrai. Deux fois, ça, c'est pas vrai.
Chut. Les massues, il faut pacifier, elles pèsent pas moins de 500 grammes chacune.
Et but.
Et troisième
et but d'Emmanuel Petit, qui marque à la dernière minute.
Chute de Mélanqui, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain.
Ça y est, Shepard est parti. L'Express, le TGV est parti. Shepard, 9,58, record du monde.
Pédalage et défonçage sont les mamelles du Tour de France. Alors, il se défonce car la ligne est encore loin.